Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve François-Pierre Nizeri.
Bonjour. Canal Academy inaugure aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Au fil des pages, une nouvelle rubrique consacrée aux revues littéraires. Comme entrée en matière, nous vous proposons de faire connaissance avec une toute jeune revue, Rive-Neuve Continent, dont nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le directeur de la publication, Alain Sancerny. Alain Sancerny, bonjour.
Bonjour.
D'abord, pourquoi consacrer une émission, une rubrique de l'émission Au fil des pages, aux revues littéraires ? Peut-être simplement parce que elles sont sans doute la meilleure des portes d'entrée en littérature. En effet, comment naît le désir de lire ? Il y a bien sûr la liste des meilleures ventes de la semaine et du mois, affichée dans tous les étals des livres, et les pages des journaux spécialisés. Il y a la critique, bien sûr, les choix passionnés et parfois résignés de quelques missionnaires de l'esprit des lettres, qui promènent leur regard singulier sur les écrits du temps et les proposent à leurs lecteurs. Puis il y a les libraires aussi, les vrais libraires. Mais la lecture d'une lecture, le regard sur un regard, suffit-il à nourrir le désir ? Eh bien, les revues littéraires, qui sont souvent objet de tant de réticences de la part de ceux qui font commerce de la littérature, sont là pour pallier un manque. Il manque à la littérature quelque chose de l'ordre de la dégustation. Les revues littéraires sont, ou du moins devraient être, des sortes de carnets de désirs, dans lesquels les lecteurs peuvent aller picorer à leur aise. Quelques mots lâchés ça et là, au hasard des pages, suffisent parfois à susciter l'envie d'aller plus loin, d'ouvrir une porte, puis deux, puis trois. Mais ce plaisir de lecture dépend beaucoup de la complicité des auteurs et des éditeurs dans cette entreprise commune. Pour que les lecteurs goûtent la diversité des littératures, il faut aussi que les écrivains acceptent d'entrer dans un processus collectif. Que leurs lecteurs sentent dans leur écriture l'expression d'un acte solidaire, cette chose si rare dans un paysage littéraire marqué par un nombrilisme sans retenue. Cette chose qui peut même paraître en soi étrangère à l'écriture, le geste de création le plus solitaire qui soit. Même la peinture, elle aussi solitaire, se risque au regard de l'autre dans les ateliers d'art. Plus difficilement l'écriture, le geste est trop intime. Le miracle des revues littéraires est peut-être précisément d'instiller dans l'écriture de ceux qui y contribuent une sorte de fil invisible qui les relie malgré et par-delà la distance, parfois infranchissable, qui les sépare. Alors Rive-Neuve Continent, dont nous allons parler aujourd'hui, a réussi, me semble-t-il, ce pari de réunir sans esprit de chapelle des écrivains de style et d'inspiration très différents, et qui pourtant forment un ensemble cohérent, qui entraîne le lecteur sur des sentiers variés mais jamais perdus. Cette revue, qui est née en novembre 2004, en plein sommet de la francophonie à Ouagadougou, qui a donc déjà 2 ans d'existence, 4 numéros sortis, Rive-Neuve Continent, qui se définit comme la revue des littératures de langue française, est publiée par les éditions Rive-Neuve à Marseille. Alain Sancerny, parmi nous aujourd'hui, le directeur de la publication, est l'un des fondateurs et on pourrait même dire l'âme de son équipe de rédaction depuis ses débuts. Né dans le Bordelais, homme de culture et d'écriture, poète, Alain Sancerny est aussi un expert internationalement reconnu dans le domaine de la coopération au développement, dans ses aspects en particulier éducation et culture. Il a occupé de nombreux postes, notamment de conseiller culturel dans différentes ambassades de France, en Afrique, notamment en Éthiopie, en Syrie, au Zimbabwe, en Guinée, au Ghana. c'est ce qu'il appelle ses errances. Et il ne faut pas oublier non plus l'errance de son enfance en Algérie, dans la caserne de son père. Et d'ailleurs, Alain Sancerny a passé 18 ans de sa vie dans des casernes. Ça compte. Ça forme. Et ses errances l'ont conduit un jour à Bruxelles, au siège de la Commission européenne, où il a mis ses compétences au service de la coopération culturelle entre l'Europe et les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Il vit maintenant à Paris, où il est consultant indépendant. Alors, avec un tel parcours, Alain Sancerny, si vous voulez en dire un peu plus sur votre parcours, faites-le, mais surtout, dites-nous un peu comment ce parcours particulier vous a conduit à vous impliquer dans une aventure telle que celle que représente la création d'une revue littéraire. Je me doute qu'il y a l'écriture, mais l'Afrique n'y est pas pour rien.
Oui, en effet, il y a bien sûr l'écriture, ce qu'on pouvait appeler la vocation littéraire dans les années 60 et 70, quand j'étais à Paris comme étudiant, et où avec mon ami Gabriel Rebourset, avec lequel nous avons fondé les éditions Rive Neuve et la revue Rive Neuve Continent, nous avons participé à la vie littéraire, nous avons publié dans des revues, nous avons organisé des événements littéraires. Donc il y a cette vocation littéraire très générale, très classique, l'écriture évidemment, qui est une préoccupation constante et dans laquelle d'ailleurs j'ai beaucoup plus erré que créé. Et puis il y a effectivement ce passage et ce long passage en Afrique où pendant des années, comme conseiller culturel, comme j'ai eu la chance et de rencontrer des écrivains de grands talents et de grandes vies, des écrivains flamboyants, j'ai traversé des pays anglophones, des pays francophones. Je me suis longtemps demandé à quoi servaient les nuits que je passais avec eux à discuter et à refaire le monde. Et puis finalement, ça s'est retrouvé un jour lorsque j'ai également retrouvé à Paris, après mon retour, Gabriel Rebourset. Nous nous sommes retrouvés autour de la littérature, autour d'édition, du désir de transmettre, le désir de transmission de ce que nous avions vécu. Et puis, où tous ces écrivains que se sont retrouvés, tous les écrivains que j'avais rencontrés pendant 20 ans, sont réapparus, ne m'avaient jamais quitté en amitié, mais sont totalement réapparus et sont entrés dans la revue immédiatement. Ils nous ont permis d'emblée de créer d'avoir une surface littéraire dans le monde assez importante.
Dans ces pays, vous avez erré, les pays d'Afrique. Et d'ailleurs, quel est le rôle des revues littéraires? Je me souviens d'avoir entendu Lionel Trouillot, notre ami commun, lorsque nous l'avions invité à Bruxelles, nous dire qu'à Haïti, les revues littéraires avaient depuis longtemps joué un rôle considérable.
Oui, alors avant de parler des revues littéraires, je parlerai de la lecture. Dans les pays d'Afrique, en Haïti, la lecture est une pratique sociale très développée. J'ai vu dans mes voyages, dans mes séjours, des étudiants lire toute la nuit. C'est-à-dire que la lecture individuelle et commune est une pratique très usuelle que nous avons un petit peu perdue en Europe. Donc la lecture déjà est importante. Et ensuite, la revue est très importante pour différentes raisons. Pour deux raisons. D'une part, c'est que le livre est rare et que la revue permet de rassembler beaucoup plus de lectures en une seule et alimente ces pratiques collective ou singulière de revue. Vous parlez de Lionel Trouillot. Lionel Trouillot va dans des écoles et lit à partir de revues, lit à partir des textes. Et plutôt que de rassembler, évidemment, il y a une économie de la revue qui permet de présenter toute une richesse de plusieurs auteurs. Et d'autre part, la revue, dans des pays où la situation des écrivains est extrêmement difficile, parce qu'ils sont souvent un peu en marge de la société, ils sont souvent confrontés à des régimes politiques ou des situations politiques ou sociales difficiles, la revue est organise une famille d'écrivains, est une collectivité agissante qui renforce un petit peu les écrivains et leur donne plus de poids et de solidarité et d'efficacité.
D'ailleurs, Lionel Trouillot, dont on parlait, est membre du comité de rédaction.
Lionel Trouillot, par bonheur, est membre du comité de rédaction. C'est un bonheur pour nous. Et Lionel Trouillot aussi est en train de
refonder une nouvelle revue en Haïti, parce que les revues dans ce sens, Haïti est un pays extrêmement littéraire, avec une littérature très forte, une pratique littéraire très forte, une pratique de la lecture très forte. Et Lionel Trouilleux est en train de refonder une revue littéraire qui est un acte civique de citoyenneté, au sens non politique, mais au sens d'engagement dans une société qui est particulièrement difficile.
Bien, revenons maintenant un peu beaucoup, à Rive-Neuve Continent. Alain Sancerny, qu'est-ce qui fait la spécificité de cette nouvelle revue, de cette jeune revue, on va dire les plus nouvelles maintenant, les jeunes ? Vous insistez souvent, par exemple, sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une revue de la francophonie, bien qu'elle soit née au sommet de Ouagadougou, mais la revue des littératures de langue française de tous les continents.
D'abord, pour revenir sur la francophonie, je dirais qu'effectivement, nous l'avons volontairement définie comme une revue des littératures de langue française. C'est-à-dire que la francophonie est une institution, extrêmement intéressante, extrêmement importante, mais qui est une institution qui se limite à un certain nombre de pays. Alors que notre revue, elle, s'adresse à tous les écrivains qui écrivent en français, qui ne sont pas nécessairement des écrivains francophones. Nous avons un écrivain japonais, nous avons des écrivains qui ne sont pas nécessairement francophones, dont la langue française n'est pas la langue naturelle, mais qui écrivent en français. Et d'autre part, nous n'avons pas voulu, c'est là que je vais revenir à la spécificité, nous n'avons pas voulu cloisonner la revue dans un genre francophone, parce que le mot francophone qui peut être utilisé comme un rassemblement d'une famille de langues n'est pas un rassemblement artistique. Par exemple, on ne dit pas que Flaubert était francophone, c'est un écrivain de langue française, hein, ni Montaigne. C'est plutôt un isolement quand on parle de francophonie. On a plutôt tendance à voir les autres pays. Or, nous n'avons pas voulu créer de cloisonnement entre la France d'une part et puis les autres pays qui écriraient en français, qui seraient des pays ou des littératures francophones. Et alors, la spécificité ou l'originalité de la revue, c'est que précisément au-delà de cette question de la francophonie, nous avons décidé de la sortir de tous les cloisonnements possibles. Beaucoup de revues qui sont excellentes, qui sont universitaires ou littéraires, prennent un genre ou se donnent un genre littéraire, ou une école de pensée, ou une génération, elles sont générationnelles, ou une communauté locale et régionale. Et nous avons voulu, nous au contraire, effacer ça du texte littéraire pour montrer le texte littéraire dans sa pureté, dans l'acte de l'écrire presque. Donc je crois que la principale originalité, c'est cette liberté de principe que nous avons donnée à la revue.
Diversité.
Non, pas diversité, je dirais pas diversité, nous sommes plutôt dans le schéma de la pluralité. La diversité, ce serait, par exemple, la langue française qui serait arborescente, et notre idée n'est pas celle-ci. Notre idée, c'est qu'il y a une pluralité de créations littéraires et que chaque auteur fait partie de cette pluralité, qu'il y a une communauté des écrivains, une république certainement des écrivains, mais que l'acte de création, que la littérature haïtienne n'est pas une bouture de la littérature française. C'est peut-être une bouture de la littérature française, mais n'est pas une branche de la littérature française. Chaque région ou chaque endroit où il s'écrit dans le monde, singulier ou collectif, est l'émergence d'une littérature. Donc c'est plutôt l'idée d'une pluralité que d'une diversité.
Pluralité donc qui n'est pas incompatible avec un certain fil conducteur qui relie tous les auteurs de la revue et qui pourrait être perceptible par les lecteurs.
Le fil conducteur vient de plusieurs choses. Le fil conducteur, c'est un travail d'édition, c'est un travail d'éditeur, c'est-à-dire que nous faisons des numéros, nous organisons chacun des numéros de façon à ce qu'il y ait une cohérence dans l'enchaînement des textes. Il y a également un thème sur lequel nous reviendrons peut-être. Et ensuite, le fil conducteur, je crois, c'est que les écrivains avec lesquels nous travaillons, qui sont nombreux maintenant, qui viennent du monde entier, sentent qu'il y a cette liberté et on a des textes qui, sans se ressembler, qui sont extrêmement différents les uns des autres, expriment une sorte d'allégresse dans la présentation. On retrouve des sortes de ressemblances spontanées. Et nous tenons évidemment à juxtaposer des textes différents.
Entrons un petit peu dans le détail maintenant de la revue Rive-Neuve Continent. Alain Sancerny, comment est-ce que cette revue est structurée ? Quelles sont ses rubriques ?
La revue est structurée en trois grandes parties. Une première partie, c'est un thème. Mais il ne s'agit pas d'une revue scientifique. Donc le thème n'est pas, nous ne souhaitons pas faire le tour scientifique d'un thème pour l'épuiser. Le thème est une invitation à offrir de la part de l'écrivain. C'est une table commune où les écrivains apportent leurs contributions. Et une fois encore, dans tous les genres, dans poésie, en théâtre, en essai, en récit, en nouvelle, en texte scientifique, universitaire, c'est une table commune où chacun apporte ce qu'il peut apporter. Donc ça, c'est un thème qui fédère un petit peu, qui donne une unité à la revue, qui fait en même temps, qui entraîne les écrivains. La seconde partie, c'est des textes en libre cours. La rubrique s'appelle « Libre cours ». Et la troisième partie, où nous recevons des textes d'un peu partout, dans tous les genres, nous essayons d'exprimer une certaine diversité. Mais par exemple, sur les deux derniers numéros, dans « Libre cours », nous avons donné un coup de projecteur à la littérature haïtienne. Dans le dernier numéro, le numéro 4, c'est sur la littérature du Maghreb. Et dans le prochain numéro, le numéro 5, ce sera sur la littérature mauricienne. Et enfin, nous avons une troisième partie qui est un ensemble de différentes rubriques. On suit le prix de la francophonie, le prix des cinq continents. On le suit, on montre des textes. On a une revue des revues littéraires. On a une revue de textes dont nous présentons des extraits. Ce sont diverses rubriques ou des institutions qui se présentent.
Et les numéros sortis jusqu'à présent, il y a 4 numéros qui sont sortis. Alors quels sont les thèmes qui ont été développés dans ces 4 numéros?
Le premier numéro au sommet de Ouagadougou, et parce que c'était lié au sommet de Ouagadougou, c'était l'auteur en quête de société. Le second numéro, c'était l'auteur et son sujet. Le troisième, l'écrivain dans ses langues. Le quatrième, l'objet de la lecture. Et le cinquième, qui paraîtra dans quelques mois, ce sera écrire l'insolence. Nous essayons de mélanger des thèmes qui soient à la fois des thèmes purement littéraires et puis des thèmes qui portent sur la sociologie ou sur la place de la littérature, sur des interrogations plus sociales. Nous essayons d'alterner, évidemment.
Racontez-nous brièvement, Alain Sancerny, les premiers pas du premier numéro, l'auteur en quête de société. Comment ça s'est passé, la naissance, mais rapidement.
Vous voulez parler du thème ou du...
La conception, les premiers pas d'une revue, comment est-ce que ça...
L'idée de la revue est venue d'une stratégie d'édition.
Par rapport au thème, bien sûr.
Par rapport au thème. Mmh. Donc, le thème est lié au sommet de Ouagadougou. D'une part, la revue s'interroge sur son existence et nous sommes demandés à quoi bon une revue, à quoi sert la littérature. Et l'interrogation, donc le sommet de la francophonie à Ouagadougou rassemble des hommes d'une cinquantaine de pays. Et nous sommes interrogés sur la disparition des consciences, de la conscience des écrivains, de la grande conscience que représentaient les écrivains dans le monde francophone, beaucoup moins dans le monde anglophone. Il y a 2 siècles, il y a 1 siècle, il y a 50 ans. C'est-à-dire que les grands phares de la littérature, de la pensée qui pesait sur l'histoire, qui pesait sur l'opinion du monde, ont disparu. C'est-à-dire que Gide, Sartre ou d'autres écrivains n'ont pas été remplacés et la littérature a cédé le pas dans l'interprétation du monde, dans le poids sur la pensée, à des formes plus médiatisées, plus médiatiques, le journalisme ou d'autres formes, ou l'université.
Ce que, si je me souviens bien, Gabriel Rebourset, le rédacteur en chef de la revue, appelait l'effacement des génies d'antan.
Voilà, exactement. Et c'est une interrogation là-dessus, donc c'est pour ça que nous l'avons appelé, évidemment, par allusion, Pirandello, l'auteur en quête de société. Qu'est-ce qui a fait que dans cet espace francophone où les écrivains pesaient, où la vision littéraire sur le monde, la vision par la fiction pesait sur le monde et sur la pensée, eh bien cette vision n'a plus de poids.
Passons maintenant directement, si vous le voulez bien, Alain Sancerny, au dernier numéro du printemps dernier de la revue, dont le thème est l'objet de la lecture. Alors dites-nous, en deux mots, ce que vous entendez transmettre par ce biais.
Voilà, c'est aussi une interrogation. Chaque numéro, chaque thème est une interrogation. L'interrogation porte sur la disparition de la lecture. C'est-à-dire non pas le fait de lire, tout le monde lit plus ou moins, mais sur la disparition de la culture de la lecture et de la gestualité, même de la grammaire de la lecture. C'est-à-dire savoir poser un livre, l'ouvrir et surtout trouver du temps pour lire. C'est-à-dire qu'on rencontre beaucoup de personnes qui sont très éclairées, mais qui nous disent « Ah mais je n'ai pas le temps de lire », sans s'apercevoir que ce temps, ils l'ont, mais ils le consacrent à autre chose. choses. Et nous sommes dans une société où la lecture n'existe plus. Le lecteur a disparu du monde de l'édition. C'est devenu une quantité négligeable. Et le thème est volontairement, la formulation du thème est volontairement ambiguë pour laisser les écrivains choisir l'angle d'approche. L'objet de la lecture, ça peut être le livre, ça peut être aussi le but de la lecture. Et donc, nous avons demandé aux écrivains de réfléchir là-dessus, de nous proposer des textes sur cette disparition problématique de la lecture.
Alors, je vous propose, Alain Sancerny, de vous faire parler autrement. Et je voudrais maintenant faire une petite lecture. La lecture de l'éditorial d'Alain Sancerny du dernier numéro de Rive Neuf Continent. Je crois que ça va expliciter tout à fait ce que vous avez dit avant. Entre la lecture qui rassemble et celle qui isole, celle qui dit à haute voix et celle qui chuchote, celle qui impose le silence et celle qui l'observe, le livre. Le livre qui sait recevoir toutes les formes, prendre toutes les poses et donner tous ses gestes à sa lecture, au point que la façon de lire révèle à coup sûr l'âme et l'aspiration sociale du lecteur, voire l'époque où il remonte. Comme les âmes, justement, j'aime les livres abîmés, cassés, froissés, tachés de lieux improbables et usés de lectures anonymes. Rien de plus obscène et sot qu'un livre neuf dans une bibliothèque. C'est une confiscation de sa lecture, un vol de pure et simple vanité. Voici un livre qui n'aura été, s'il l'a jamais été, lu qu'une fois. Je connais des lecteurs dans le monde, des vieillards et des enfants qui n'ont jamais vu ni tenu un seul livre. Ce sont ces endroits aussi où un livre capturé à force de patience peut être lu et relu 100 fois. Le livre est soluble dans sa transmission. Au bout de sa lecture, qui est son aventure, comme un saumon peut la connaître, il veut son propre sacrifice. Je veux qu'à la fin, le livre s'éparpille en cendres de mots exténués. 100 fois lu, certainement, ou 1000. Jadis, le livre était un trésor rare qu'il fallait protéger précieusement. Son lecteur, peut-être unique, savait en ruminer la pâture. 1000 fois. Aujourd'hui que les grands abattoirs d'édition dégorgent à l'étalage, il lui faudrait 1000 lecteurs. Or, au bridge de l'édition, entre l'auteur, l'éditeur et le médiateur, le lecteur occupe la place du mort. C'est un fantôme fabriqué, loin des vivants. Combien de livres vont finir sans être même ouverts, quand ce n'est pas au pilon sur l'étagère éteinte d'un bureau, sur la table d'un brocanteur, dans des cartons. Le livre n'est plus l'occasion de la lecture, mais déjà son objet d'occasion. Et l'échange, où il s'entretenait, s'est simplifié dans l'économie linéaire du cadeau. Est-il fait même pour être lu plus d'une seule fois ? Pour être lu entièrement, ou seulement par petits morceaux et bonnes pages. Nos lecteurs ont de petites fins. C'est aussi que le temps de lire nous manque. Sur le disque mou de la durée quotidienne, ce temps s'est écrasé. Non pas le temps, le geste, toute cette grammaire du corps qui sait saisir un livre, le porter à deux mains ou à une, l'entrouvrir, le feuilleter pesamment. Le retourner sur une table, le lire assis, debout, couché, dedans, dehors, auprès d'une fenêtre, sous un arbre, en voyage. La gymnastique avec ses heures, remplacée par d'autres plus faciles ou plus voyantes, s'est éteinte, pour que le livre ne soit pas le tombeau de la lecture. Après cette introduction, qui à mon avis parle d'elle-même en ce qui concerne ce numéro 4 de la revue « L'objet de la lecture », dites-nous maintenant, pour nous projeter un petit peu dans l'avenir rapidement, quel est le thème du prochain numéro ?
Le thème du prochain numéro, c'est écrire l'insolence. Et comme d'habitude, j'adresse un message aux différents auteurs, et c'est un thème ouvert. Et les auteurs pourront choisir ce qu'ils entendent par insolence, et si l'insolence est toujours possible, et quel est le rôle de l'insolence. Alors, ce n'est pas non plus un thème gratuit, dans la mesure où la littérature se pose dans le monde avec toujours une certaine insolence.
Eh bien, Alain Sancerny, nous ne sommes pas loin de la fin de cette émission. Vous êtes ici à Canal Académie, la radio des académies de France. Alors, n'y a-t-il pas une complicité entre les académiciens, les académies et les revues littéraires ? Est-ce que finalement, les académiciens ne transmettent pas eux aussi cet idéal d'esprit collectif en littérature dont les revues, et la vôtre en particulier, se veulent les porte-drapeaux ?
Alors je dirais qu'il y a une complicité de nature, déjà. dans la mesure où la revue Rive Neuve Continent est une revue qui se situe, vous savez, dans ce grand débat du XXe siècle entre l'université et l'académie. Ce combat qui, où parfois l'université l'a emporté sur l'académie, cette rivalité. Nous sommes une revue académique, en ce sens que nous sommes une revue de langue, non pas sur la langue, nous ne sommes pas une revue pour interpréter d'autres textes, nous sommes une revue qui présentons de la littérature. Ensuite, je crois que dans le contexte que je vous ai écrit, où nous travaillons sur la pluralité géographique du monde et des individus isolés, des écrivains que nous rassemblons, eh bien il est bien qu'il y ait des académies, une académie, des gens qui conservent, et je crois que la revue Rive Neuve Continent imite une revue d'hommes vivants.
Merci Alain Sancerny. Canal Académie se réjouit d'avoir pu contribuer aujourd'hui à faire connaître une jeune revue littéraire si riche et si ambitieuse, tant par la qualité de ses textes que par son ouverture au monde. Et je voudrais de mon côté donner rendez-vous à nos auditeurs pour une prochaine émission consacrée à une autre revue littéraire.